Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Ou on va le faire apparaître à l'écran, là, je pense que c'est comme ça que je l'ai appelé. On met ça au Seigneur. Père éternel, merci pour ta présence, Seigneur Dieu. Merci que tu es le Père éternel, le Père aimant, que tu es le roi des cieux et le roi du royaume de Dieu. Seigneur, on a étudié les paraboles ces derniers temps, puis on a étudié comment c'était un air, Seigneur Dieu, où c'est un règne que tu commences à avoir dans le cœur des gens, Seigneur Dieu. Ce n'est pas encore ton règne terrestre, Seigneur. Ce n'est pas encore ce règne, Seigneur, où tout ce qui est sur la terre t'obéit, Seigneur. Mais on a commencé à voir des gens de plus en plus être sous le roi Jésus dans l'Église. Aide-nous donc à comprendre l'ère dans laquelle on vit afin qu'on puisse comprendre qu'est-ce qu'être un disciple dans l'ère de l'Église et des mystères. Au nom de Jésus, amen. OK, donc on a étudié les paraboles ces derniers temps. On a eu 4 messages là-dessus. Dans les 4 messages, on a vu que dans l'ère du royaume, faire des disciples dans le royaume, ça va être notre emphase. On a vu que il y a beaucoup d'idées autour de « c'est un temps pour ensemencer le champ, c'est un temps pour… » Il y a du champ de blé, il y a de l'ivraie, etc. Et on voit dans presque toutes les paraboles que le Seigneur nous dit, il nous avertit qu'il y a un antagoniste. Un antagoniste, c'est quelque chose qui vient se placer à la place de l'autre, puis qui vient empêcher l'autre de faire ce qu'il est supposé de faire. Donc, j'ai pensé que c'était important qu'on discute, si Jésus nous avertit presque dans toutes les paraboles, soit du levain dans un champ de blé, soit de la, pas du levain, de l'ivraie dans un champ de blé, du levain dans la pâte qu'un pain est fait, s'il nous parle à quelque part des semences dans un terrain, puis qu'il y en a qui tombent sur le bord des rochers, puis ça ne porte pas de fruits, d'autres c'est des oiseaux du ciel qui viennent le chercher, d'autres c'est encore des épines. Il y a comme toujours une difficulté à être un disciple dans l'ère de l'Église puis dans l'ère des mystères. Et donc, ce que je veux faire avec vous aujourd'hui, c'est je veux essayer d'avoir un regard critique sur le temps qu'on est, sur l'Église aussi, puis sur les difficultés qu'on pourrait avoir à être un disciple et à faire des disciples dans l'ère du mystère. OK? Donc, on va essayer de comprendre le temps dans lequel on vit. Puis, on a besoin, en tant que disciple, de discerner le temps dans lequel on vit, afin de pas… Parce que là, si on ne comprend pas le monde dans lequel on vit, qu'est-ce qu'on va faire? On va être modelé par le monde. Ah, ben c'est d'avoir de l'argent qui compte dans la vie. Fait que là, on va devenir des chrétiens qui pensent qu'il faut faire de l'argent pour être quelqu'un dans la vie. On va se faire des disciples. On va devenir des disciples du monde. Alors que Jésus a dit, non, vous allez faire de toutes les nations des disciples. Et vous allez leur enseigner la parole. Tu sais. Fait que si on ne comprend pas le monde dans lequel on vit, bien, ça se peut qu'on ait acheté ses valeurs, qu'on ait pris ses priorités, puis qu'on se soit laissé modeler par le monde. Puis la Bible, elle nous dit, « Soyez pas conformes au monde, soyez transformés dans votre intelligence. » Dans quel temps est-ce qu'on vit? On vit dans une société de consommation. Puis la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que l'Église apprend comme terrain? Qu'est-ce qu'elle prend de la place dans cette société-là présentement? L'Église. Je me suis inspiré d'un livre que je suis en train de lire. J'ai la tête grosse de même parce que, dans le fond, au lieu de prendre un petit texte d'un théologien sur les paraboles qui prend 15-20 minutes à étudier, puis après ça, je peux faire un message avec ça. Là, j'essaie moi-même de comprendre philosophiquement un peu où c'est qu'on est. Fait que, dans le fond, j'ai beaucoup aimé cet homme-là qui nous a enseigné quand j'étais allé à Toronto dans mon voyage en avril. Il a écrit un livre en 2010 qui s'appelle Untamed. Puis je suis en train de lire ce livre-là. Puis de ça sort un petit peu ma préparation pour faire mon message. Lui, il dit que, dans le fond, la majorité des commentateurs, surtout ceux qui étudient le mouvement d'Église, sont d'accord pour dire qu'en tentant d'interpeller une culture consumériste, l'Église d'Occident a perdu l'art de faire des disciples. Moi, en tout cas, depuis que je suis pasteur, ça me titille la cédille, comme dirait Patrick. Ça me titille la cédille, cette idée-là de faire des disciples, parce que jusqu'à maintenant, je trouve qu'à l'Église, on a toujours réussi à comprendre que chaque croyant devait être formé à l'Institut biblique. Ça, on a gardé ça, on n'a pas touché à ça. Il faut être formé, il faut apprendre à penser avec Dieu. Puis la majorité des chrétiens de l'Église font la formation biblique et comprennent que c'est une valeur qui est très importante d'être formé. Toutefois, là où ce que le bas blesse, je vais en parler aujourd'hui un petit peu plus, c'est que ça ne se passe pas juste dans des cours bibliques, faire de la formation de disciples. Ça ne se passe pas juste quand moi je deviens un disciple, mais c'est quand moi je fais un disciple aussi. Puis là, je trouve qu'on a des croûtes à manger, on a besoin d'apprendre, puis je vais vous enseigner, je vais partager avec vous quelque chose que je n'ai pas maîtrisé dans ma propre vie, mais ce que je désire voir durant le reste de ma vie avant que Jésus revienne, je veux voir ça. Je veux le voir de mes yeux. Un mouvement. Puis un mouvement, bien Jésus, quand il nous dit la parabole de la bonne terre, puis la semence qui est enlevée en bonne terre, c'est écrit que l'arbre devient un arbre fruitier, puis qu'il produit 30, 60 et 100 fruits. Une semence qui est tombée en terre dans la bonne terre. Donc, il y a toujours cette idée qui revient dans la pensée. Il est où le mouvement? Est où la multiplication de « j'ai accepté, je suis devenu un disciple, je suis en train de faire un disciple, je suis en train de faire des disciples autour de moi. » Puis encore, ce n'est pas par condamnation que je veux amener ça ici, mais je veux essayer qu'on découvre ensemble qu'est-ce qui empêche qu'on puisse faire des disciples, pas juste dans une manière structurée, c'est-à-dire prendre des cours bibliques, ce qui est excellent en passant. Je vous félicite de continuer votre formation biblique. Puis je crois que c'est excellent, puis je pense que c'est rare. Je pense que c'est rare, une Église qui met en avant tant que ça la formation biblique, puis qui a beaucoup un haut taux de participation de ses membres. Je vais commencer en vous contant l'histoire d'une alouette et le marchand de verre. L'alouette tournait dans les cieux et le marchand s'écriait « Verre! Verre à vendre! Délicieux verre à vendre! » Intrigué, l'alouette s'approche du vendeur en ignorant que ce vendeur est le diable. « Approche-toi, ma bonne amie! Vois les beaux verres que j'ai à vendre! » Puis l'alouette s'approche et réalise, en fait, qu'elle a faim. Le marchand lui dit « Deux verres délicieux pour une aile! » Elle est incapable de résister. De toute façon, elle l'aime. Elle a beaucoup d'elle. Et donc, elle en prend une petite, là, juste en dessous, et la donne. Et puis, elle prend les plus gonflés et avale son repas avec délice. Jamais elle n'a goûté un repas si juteux et délicieux. Hein, des bons verres. Hein. Jour après jour, le marchand revient et offre toute une panoplie de verres, des noirs, des bleus, des rouges. Des gros verres reluisants. Et un jour, après avoir pris son repas, elle s'envole et, horrifiée, elle s'aperçoit qu'elle ne peut plus voler. Elle comprend ce qui lui arrive. Elle a pris du poids à manger des verres et elle est devenue de plus en plus chauve d'elle. Elle avait commencé à voir qu'elle avait du mal à voler, mais elle disait que c'était pas si pire que ça. Mais voilà maintenant qu'elle est prise au sol. Elle lève la tête et voit le marchand la regarder. Est-ce qu'il sourit? Est-ce qu'il a un sourire tout au large de son visage? Il prend l'oiseau, la met dans la cage et s'en va en riant. Une drôle de parabole, non? Qu'est-ce que ça nous dit? Cette histoire nous montre qu'il y a un problème, c'est que l'alouette voit quelque chose pour elle, mais elle ne réalise pas qu'en prenant quelque chose pour elle, elle perd au change. En remettant une aile à chaque fois qu'elle prend des verres, elle ne réalise pas qu'à force de compromis, elle finit par perdre au change et pas gagner. Aujourd'hui, et dans la série, je vais essayer de nous sensibiliser en éveillant dans notre conscience qu'on est dans un monde de ténèbres, que dans Éphésiens 2:2, c'est écrit que Satan est le prince des ténèbres et que dans les ténèbres, le disciple doit faire face au monde pleinement conscient du désir des ténèbres de pervertir et détruire le témoignage de la lumière. Si un semeur sorti pour semer, il y a un oiseau qui est sorti pour manger. Si un semeur qui est sorti pour semer, le malin il a un plan et ce qu'il veut essayer de faire, c'est de détruire le témoignage que vous avez et votre saveur, votre impact que vous avez aussi sur le reste du monde. Et il veut vous empêcher éventuellement de vous envoler à force de compromis. Donc, comme l'alouette, l'ennemi, il ne peut pas nécessairement enlever le salut. Il ne peut pas m'enlever la vie éternelle. C'est un cadeau, je l'ai reçu comme un cadeau gratuit. Par contre, ce que l'ennemi peut réussir à faire, c'est à force de transactions avec moi, m'amener à un endroit où je ne m'envolerai plus. Et j'aurai plus la vie que je devrais être, la vie libre que je dois avoir, la vie qui porte du fruit que je dois avoir, puis la vie qui fait des disciples, puis qui va et puis qui gagne le monde pour Jésus. Parce qu'il a réussi à pervertir et détruire mon témoignage. Alors, ce qu'on va voir dans ça, on va regarder, on va essayer d'observer par trois facettes, dans le fond. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est intéressant. La grande commission, c'est aller partout le monde, faites des nations, des disciples, et un auteur l'a appelé la grande omission. Parce que c'est là où ce que le bas blesse là, dans les temps modernes. On va regarder les trois grands domaines qu'on va regarder, par lesquels on va regarder les empêchements, les manières qu'on se fait avoir en tant que chrétien pour ne pas faire des disciples dans le monde. La théologie, la culture, le monde dans lequel on vit, ses valeurs, ses artefacts et tout. Et on va regarder ensuite la vision de soi. On va commencer par la théologie aujourd'hui, puis on va se concentrer sur la personne de Jésus. Comment Jésus, lui, il faisait des disciples? Puis, comme on est appelé à devenir comme Jésus, bien, ça va être un bon point de départ. Schéma dans l'Ancien Testament, Deutéronome 6, 4 à 6. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul et éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Un disciple, premièrement, c'est quelqu'un qui écoute. Schéma, c'est le mot pour écoute. Qui écoute, premièrement, qui croit que l'Éternel est le seul Dieu, puis qui l'aime avec tout son cœur, avec toute son âme, puis avec toutes ses forces. Et ça, c'est dans son cœur. Dans le Nouveau Testament, on a la même chose. Ce verset-là ici est repris dans le Nouveau Testament quand il y a un des scribes qui avait entendu discuter Jésus et sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, il s'est approché, il a demandé « C'est quoi le premier de tous les commandements? » Et Jésus répondit « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. » Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, et il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Le scribe lui dit, « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et d'aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. » Ça, c'est dans Marc 12, 28 à 33. Et donc, Jésus prend le verset de l'Ancien Testament de Deutéronome 6, puis il ajoute ce qui est important, c'est premièrement d'écouter, écouter. Deuxièmement, pour croire que Dieu est l'unique, et d'aimer le Seigneur son Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Et il ajoute à ce qui est le plus important, c'est une obligation envers son prochain. Donc, un seul Dieu tel qu'il est révélé, tel que et non tel que je le conçois. On sait que les 10 commandements sont très forts contre l'idolâtrie, qu'on ne doit pas avoir d'autres images que Dieu, qu'il n'y a pas d'autres dieux, puis qu'on ne doit pas se faire des images de Dieu. Et donc, on doit, et la semaine passée, je vous ai dit, si je peux vous convaincre de lire l'Ancien Testament pour aller trouver dans les vieux trésors des choses pour, dans votre nouveau trésor, pour mettre ça dans votre nouveau trésor aussi, aujourd'hui, je veux vous convaincre, d'abord, je vais vous convaincre de lire les évangiles plus souvent, les quatre évangiles, pour voir comment Jésus-Christ agissait. Parce que Jésus, Philippe, il a demandé, montre-nous le Père, et Jésus a dit, bien, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, si vous comprenez la personne de Jésus, vous allez comprendre la personne du Père. Donc, il y a un seul Dieu, et ce Dieu-là est en trois personnes, mais il y a un seul Dieu. Puis, c'est à nous de... Aujourd'hui, on va voir que si on a une mauvaise conception de Jésus, on va avoir une mauvaise conception de la formation de disciples aussi. Okay? Donc, le premier passage ici nous dit d'aimer Dieu avec tout notre cœur, toute notre âme, toute notre pensée et toute notre force. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que d'aimer Dieu avec toute ma vie, avec toute mon intelligence, avec toutes mes passions, avec concernant ma famille, ma sexualité, tous les domaines de ma vie, je suis appelé non à l'aimer le dimanche et le mercredi. Je suis appelé à l'aimer dans ma pensée, dans mon intelligence, dans mes forces. Donc, on a à apprendre ça. Deuxièmement, on a besoin de reconnaître qu'on a une relation avec le monde et une obligation envers les autres. Ici, c'est écrit qu'on devrait les aimer comme nous-mêmes. Hein? Donc, il y a une obligation envers l'autre, puis ça, c'est... Je peux pas juste dire moi j'aime Dieu, puis je suis un disciple de Dieu, si je suis pas aussi engagé envers l'autre d'aimer mon prochain comme moi-même. Donc, on a entendu parler de l'Évangile, on a entendu parler de ce que Jésus-Christ a fait pour nous, et on est entré en relation avec Dieu. On a reçu l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, puis on a commencé une relation avec lui. On pourrait quasiment dire qu'on a commencé la première partie. C'est excellent. Dieu lui-même, il est venu me sauver, je lui appartiens, je veux le connaître, il est mon sauveur, je le prie, j'étudie la Bible, je veux le connaître lui. Mais le deuxième commandement va impliquer la manière dont je vais rentrer avec le monde. Puis une de ces manières-là, c'est de leur donner la possibilité à eux aussi d'avoir ce que j'ai reçu, la vie éternelle. Mais c'est pas juste ça, c'est les aimer, c'est agir envers eux comme Dieu veut que j'agisse envers eux, mais c'est certainement aussi de les aider à croître dans l'amour pour Dieu, qui est le premier commandement. Aider chaque homme à découvrir ce Dieu-là qui les aime. Aujourd'hui, on va donc se concentrer sur, théologiquement, prochaine acétate, sur la personne de Jésus. Donc, on connaît Dieu. Peux-tu avoir le contrôle? S'il vous plaît. OK. Donc, merci. Donc, on connaît Dieu comment dans le monde, présentement? Comment est-ce qu'on connaît Dieu? Comment quelqu'un arrive à dire qu'il connaît Dieu? La création. La création parle des perfections invisibles de Dieu, de la divinité et sa puissance. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour connaître Dieu? Hein? La Bible. Avant que Jésus vienne, on avait les prophètes de l'Ancien Testament. Puis, ils sont toujours là. On peut lire dans l'Ancien Testament, connaître beaucoup de choses sur Dieu. Mais depuis que Jésus-Christ est venu, Dieu nous parle par son Fils. Après, autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde. Donc, si vous lisez régulièrement les Évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, normalement, devriez trouver à quoi ressemble Dieu, parce que Dieu nous a parlé par son Fils. Et ce qu'il a voulu nous dire, c'est contenu principalement dans les quatre évangiles. Et c'est sûr dans le Nouveau Testament, mais on connaît Dieu par son Fils Jésus-Christ. Donc, quand on devenait disciple, Philippe est allé voir Nathaniel, puis il a dit, hey, viens voir, j'ai trouvé le Messie en Israël, puis il va dire, viens et vois. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on devient disciple. On devient disciple comment? Hey, viens à mon église, viens, je veux te parler de Jésus. Les gens sont curieux, ils vont écouter un témoignage et ils vont venir et voir, ils vont venir et écouter. Jésus, c'est comme ça qu'il a ramassé ses disciples. Il prêchait dans les endroits publics, puis les gens, ils disaient, hey, viens écouter, viens voir celui qui me dit. Elle dit, la Samaritaine a dit, venez voir le gars qui a dit tout ce que j'ai fait. T'sais. Puis là, tout le village a accouru, puis sont venus écouter Jésus. Donc, au début, c'est par curiosité que les gens s'approchaient de Jésus. Puis, chose étrange, les prostituées, les Samaritains, les soldats romains, les non-juifs, tous ces gens-là qui étaient exclus de la société, il n'y a personne qui approchait les pharisiens qu'on appelait les docteurs de la loi. Il n'y a personne qui allait les écouter enseigner, ces gens-là. Pourtant, quand Jésus-Christ parlait, les lépreux, les prostituées, les Samaritains, les soldats romains, les non-juifs, ils aimaient ça, écouter Jésus. Et pourtant, les collecteurs de taxes, c'était des voleurs. Ils étaient appelés, des fois, quand vous voyez gens de mauvaise vie dans les évangiles, c'est les prostituées ou les publicains. On leur refusait l'accès au temple parce qu'ils étaient de mauvaise vie. Hein? Mais Jésus, lui, quand il enseignait, ces gens-là, c'était sa bande. Assez qu'on l'appelait l'ami des pécheurs. Ce n'était pas un compliment qu'on y faisait dans ce temps-là. Et donc, le premier commandement, « Écoute le Seigneur ton Dieu », c'était ça, c'était ce qu'il était en train de faire. Il était en train d'écouter le Seigneur leur Dieu. Tu sais. Puis, pourquoi est-ce que ces gens-là n'écoutaient pas les pharisiens? Parce que le nom pharisien voulait dire « séparé ». Quand ils ont parti cette secte-là, dans le fond, c'était pour s'abstenir du service militaire. Puis eux autres, ce qu'ils voulaient, c'est rester dans la parole pour pouvoir, tu sais, garder le peuple d'Israël sa ligne droite. Tu sais. C'était noble au début, mais ça c'est devenu un genre de secte où on se mettait à l'écart. Hein? Et donc, on voulait atteindre une excellence morale et on se séparait ainsi des pécheurs. Puis si on ne comprend pas bien que ce n'est pas ça que Jésus est venu faire, premièrement, de se séparer des pécheurs, bien, notre formation de disciples, puis même nous, en devenant disciples, on ne va pas juste se séparer du reste du monde tout le temps pour être comme une race à part. Hein? Jésus a dit, je ne prie pas que tu les enlèves du monde, je prie que tu les gardes du malin, qu'ils restent dans le monde parce qu'ils vont avoir un impact sur le monde. Donc, Jésus était moralement pur, il ne participait pas au péché des autres. Là. Quand il était avec les prostituées, il ne se prostituait pas avec eux autres. Il ne faisait pas leur péché. Mais ils allaient avec eux. Quand Matthieu il a fait un gros party, là, il a amené tous ses amis. Hein, puis c'était tous des collecteurs puis des prostituées. C'était ça, sa bande. Il a fait un gros party pour Jésus le soir. Jésus est allé à ce party-là. Mais Jésus, il était moralement pur et ne participait pas au péché des autres, mais ne se séparait pas d'eux. Donc, on va voir quelques faits à propos de Jésus et la formation de disciples. Il ne se séparait pas des gens de mauvaise vie, mais il exerçait un ministère auprès d'eux. Un disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas quelqu'un qui s'isole du monde, parce que s'il s'isole du monde, il n'y a plus rien à dire au monde. Hein? Donc, notre compréhension du ministère de Jésus va avoir un impact direct sur la manière dont on va agir en présence de personnes qui sont brisées, des personnes qui ont vécu un passé et une vie de... à cause d'un passé brisé, qui amène la débauche et toutes ces choses-là. Jésus n'est pas seulement venu enseigner. Jésus annonçait la grâce de Dieu, mais il est venu aussi annoncer la délivrance des captifs, la guérison des cœurs brisés. Dans Luc 4, dès qu'il lance son ministère, il vient de se faire baptiser, il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Et pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour renvoyer libres les opprimés. Jésus n'était pas juste un enseignant. Et ça, c'est important qu'on garde ça dans notre tête, parce que quand on avance sur le chemin de faire des disciples, on ne veut pas seulement des gens qui apprennent ce que Dieu, qui Dieu est, ce que Dieu a fait, mais qui est ce Dieu-là qui vient de rentrer en communion avec, qui va les délivrer, qui va les rendre libres, qui va les restaurer, qui va leur annoncer la grâce, le pardon des péchés, etc. Donc, c'est plus qu'un enseignement. Être un disciple de Jésus-Christ, c'est plus que de recevoir des enseignements, c'est de connaître celui qui me délivre, c'est connaître celui qui guérit mon cœur brisé. Donc, je ne vais pas juste à l'Église, puis je ne vais pas juste devenir un disciple pour savoir qui est capable de guérir. Je connais Jésus-Christ qui est celui qui guérit les cœurs brisés. Et donc, la formation de disciple, ça ne va pas être juste un enseignement. Mais c'est un enseignement sur celui que quand tu places ta foi dans le Seigneur Jésus, tu peux devenir saint à nouveau. S-A-I-M. Et donc, on veut que ces gens-là vont trouver la délivrance, la guérison, en plaçant leur foi en Jésus-Christ. Okay? C'est pas prends le cours 101, prends le cours 102, 201, 203, puis après ça, on va mettre un stamp en bas. Tu es un disciple. C'est plus qu'un enseignement. Jésus n'était pas seulement un enseignant. Il enseignait des choses qui faisaient que quand les gens plaçaient leur confiance dans ce qu'il disait, il y a des choses qui se passaient aussi. L'éthique n'était pas à l'avant-plan de son enseignement. Donc, il disait pas... Les seuls à qui il disait qui traitait vraiment... qui était plus dur avec, c'est ceux qui se croyaient juste puis qui pensaient qu'il n'y avait pas besoin de repentance. C'était les scribes et les pharisiens. Puis, eux autres, ils te les traitaient de non, mon ami. Il était dur avec eux, mais il n'était jamais dur avec quelqu'un qui était dans le péché, par exemple. Hein? Dans Jean 1, 17, c'est écrit « Car la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Jean 1, 17. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La première emphase que Jésus-Christ a mis lorsqu'il est venu, c'est de dire que les gens pouvaient être pardonnés. Pourquoi il n'y avait pas besoin de venir avec la loi? Parce que Moïse avait fait un bon travail à ce niveau-là. Hein? La loi de Moïse était venue nous convaincre qu'on avait besoin d'être pardonné. Maintenant, Jésus dit, « Moi, je ne suis pas venu pour condamner le monde, je suis venu pour que le monde soit sauvé. » D'ailleurs, il dit dans Jean 12, 45, il dit, « Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Jésus, dans ce passage-là, qu'est-ce qu'il dit? Ceux qui voient Jésus voient le Père. Hein? Puis il dit, celui qui me voit, parce que je suis la lumière, il ne demeure pas dans les ténèbres. L'Évangile, c'est d'abord de voir Jésus-Christ, puis laisser les ténèbres être chassées de notre vie. Et non l'inverse. Et non l'inverse. On ne dit pas aux gens, enlève les ténèbres dans ta vie, puis tu vas pouvoir venir à la lumière. On dit, viens à la lumière, puis les ténèbres vont sortir de ta vie. Et donc, le message de Jésus-Christ, ce n'était pas la loi et une éthique en premier. Ce n'est pas « change ta vie, puis Dieu va pouvoir faire quelque chose avec toi ». C'est « viens à Dieu pour qu'il fasse quelque chose avec toi, puis la lumière va être le fruit de les ténèbres vont partir de toi ». Donc, la présence de la lumière de Jésus-Christ amenée dans la vie d'une personne qui est dans les ténèbres va amener la lumière. Et donc, Jésus, c'est pour ça, on a besoin de comprendre ça. Notre image de Jésus est importante parce que sinon, on va aller faire des petits conformés. Des gens qui font plus ci, des gens qui font plus ça, des gens qu'il faut qu'ils fassent ci, des gens qu'il faut qu'ils fassent ça. Mais on n'aura pas rencontré celui qui est la lumière. Donc, le chemin pour faire des disciples, n'est pas « change ta vie, puis viens à Dieu », mais « viens à Dieu tel que tu es ». Goûte à l'amour de Dieu et laisse-toi instruire par la suite par cette grâce. Par contre, Jésus n'a jamais dit à la femme adultère « va, puis recommence ». Il a démontré dans Jean 8, de façon extraordinaire, que même s'il avait le pouvoir de juger, bien là, il ne l'a pas fait. Puis il ne l'a pas fait parce que c'est un faux tribunal, puis il y avait eu des fausses accusations, puis l'autre qui avait couché avec, il faisait partie du complot probablement. Fait qu'il n'a pas pu appliquer la loi de Moïse dans ce scénario-là. Mais dans l'Ancien Testament, Dieu n'a pas toujours appliqué la loi au pied de la lettre quand quelqu'un avait péché, parce que des fois, Dieu montre sa grâce en retardant la justice. Et donc, dans Jean 8, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à la femme, « Va et ne pêche plus. » Mais d'abord venait l'acceptation, deuxièmement, une instruction. Ce n'est pas vrai qu'on va pouvoir juste venir à Jésus tel qu'on est puis rester toujours comme ça. Ce n'est pas vrai, ça serait faux de dire ça dans notre formation de disciples. Dans Tite 1:11, c'est écrit, « La grâce de Dieu, c'est la source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Point. La grâce de Dieu est manifestée en Jésus. Pour tous les hommes, elle a été manifestée. Puis il dit pas qu'est-ce qui a été manifesté, mais il dit « Elle a été manifestée à tous les hommes. » Mais on sait, en lisant les Évangiles, que c'est Jésus-Christ, dans son incarnation, sa vie, sa mort sur la croix et sa résurrection pour nous, qui fait que cette grâce-là a été manifestée à tous. Ça, c'est la grâce de Dieu pour la prostituée, pour celui qui a tué, pour ceux qui ont besoin d'être pardonnés comme vous et moi. Mais après ça, la grâce de Dieu, elle vient comme une enseignante. Donc, premièrement, la grâce de Dieu est manifestée à tous les hommes. Et là, on est placé devant notre besoin d'être pardonné. J'ai dit des gros meurtres puis des grosses affaires, là, mais ça peut être un petit mensonge. Quand que j'ai volé une gomme ballon à ma sœur quand j'étais jeune, là. J'ai besoin d'être pardonné. On a tous besoin. Elle a été manifestée à tous. Mais une fois que j'accepte cette grâce-là, le Seigneur Jésus marche avec moi. Ou cette grâce-là marche avec moi. Et dans le titre, c'est écrit, « Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » Donc, dans notre formation de disciples, on est prudent de ne pas mettre des requis sur changer quelque chose. Parce que si on dit, il faut que tu viennes à Jésus, mais que tu changes quelque chose, on est en train de dire, cette grâce-là n'est pas une grâce, c'est un salaire. Il faut que tu changes pour avoir le droit à être pardonné. Fait qu'il faut que la personne comprenne que c'est vrai que c'est un cadeau. Par contre, l'amour de Dieu qui va t'accompagner va te donner le goût de participer à la justice, à la sainteté, à la piété, à vivre d'une manière différente de comment tu vivais avant, puis elle va marcher avec toi, cette grâce-là. Cette grâce-là, ça a tout payé à Christ. Ton salut a tout payé à Christ. Ta maturité va te coûter tout à toi. Mais ça, on va en parler un petit peu plus tard. Okay? Mais pour le moment, il faut vraiment comprendre que ce qui est à l'avant-plan de l'enseignement, on ne peut jamais insister trop là-dessus parce qu'on risque de devenir des légalistes si on ne fait pas ça. C'est de placer une norme ou une règle qui nous rendrait acceptables devant Dieu. Et ça, ce n'est pas l'Évangile. C'est une mauvaise nouvelle. Donc, notre message, il est merveilleux, c'est « Viens à Dieu tel que tu es, mais tu es une branche et tu seras rattaché à la branche principale, le tronc principal, comme dans Jean 15, et Dieu, en toi, fera couler la vie de son Fils pour te faire porter un fruit de Jésus-Christ qui habite en toi. Tu vas participer dans une nouvelle relation vitale avec Dieu et ça va transformer quelque chose dans ton cœur. » On observe Jésus, on lit les Évangiles, on s'aperçoit que Jésus a aidé ses disciples à comprendre et éventuellement, ils sont nés de nouveau. Ils ont fini par comprendre. 3 ans de ministère, le gars, il couche dans le même endroit souvent avec eux. Des fois, il y en a deux qui partent en voyage, ils s'en vont retravailler un peu chez leur père. Après ça, ils reprennent. Ils passent beaucoup de temps ensemble et puis ils les enseignent. Ils enseignent. Ils ne sont pas toujours les 12 ensemble, mais dans les 3 ans, ils les enseignent constamment. Dans le cadre d'un enseignement, souvent, il y en a un moment donné qui est fini, après quelques années, à comprendre la nouvelle naissance. Qui dites-vous que je suis? Pierre, dans Marc 16. Tu es le Christ, le Fils unique du Dieu vivant. Tu es heureux, Pierre, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est l'Esprit. Il a compris à ce moment-là que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, le Messie envoyé par Dieu, puis il était le Fils de Dieu. Quand on était dans les Évangiles, naître de nouveau, il fallait juste croire que Dieu avait envoyé son Fils Jésus-Christ et qu'il était le Sauveur des hommes. Point. Nous, aujourd'hui, notre Évangile est plus complet que ça parce qu'on comprend plus. On comprend que Jésus-Christ était le Messie envoyé par Dieu, qu'il a été mort sur une croix pour être puni pour nos péchés, qu'il a été enseveli le 3e jour, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Hein? Mais Ça vous frappe pas, ça? Qu'après quelques années, à force de faire un disciple, à un moment donné, Pierre y allume, puis il devient né de nouveau. Qu'est-ce qu'on fait en Amérique du Nord, nous? Né de nouveau, puis après ça, comprends celui qui t'a racheté. C'est pas nécessairement mal d'annoncer la bonne nouvelle puis de vouloir avoir une décision la première journée, mais ce qu'il faut faire, c'est que la personne, à force de se faire enseigner ou se faire partager la Bible, elle finit par comprendre son état de pécheur. À un moment donné, elle comprend la justice divine. Elle comprend qu'elle est perdue sans Christ. Elle comprend qu'elle a besoin de sa mort et de sa résurrection pour être sauvée. Peut-être qu'elle lit Romains pour ça. Et à un moment donné, elle comprend c'est quoi naître de nouveau. Mais nous, on est dans une société de consommation, la société du bouton. Pouf! Je veux une décision pour Jésus aujourd'hui. Il faut que quelqu'un naisse de nouveau. Okay? Puis on veut que ça aille vite. Mais ça ici, c'est peut-être la chose la plus contre-culturelle que j'apporte dans mon message. C'est qu'à force d'enseigner une personne, que tu parles à ta sœur, tu vous lisez la Bible ensemble, puis vous regardez ces versets-là ensemble, à force de s'exposer à la parole, dans 1 Pierre 1:23, cette parole l'engendre dans une nouvelle vie. Donc, c'est peut-être le point le plus confrontant de notre culture actuelle qui veut que les choses aillent vite. Hein? Est-ce que j'ai d'autres choses à dire sur ce point-là? L'emphase était importante sur la formation de disciples et en cours de route, la personne comprend qui est Jésus, ce qu'il est venu faire et qu'elle est perdue, qu'elle a besoin d'être sauvée. Marc 16 nous dit « Allez par toute la bonne nouvelle, par tout le monde, puis annoncez la bonne nouvelle. » Donc, l'idée, c'est faut que le monde entende parler de la bonne nouvelle, c'est tout le monde, puis l'annoncer, point. Mais dans Matthieu 28, c'est « Faites de toutes les nations des disciples. » De toutes les nations des disciples. Et donc, ça veut dire quoi? Le mot disciple, c'est quelqu'un qui, le texte dit, enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Donc, ils vont apprendre quels sont les enseignements de Jésus. Ils vont apprendre c'est pourquoi il faudrait qu'ils soient baptisés. Hein? Puis, un disciple, c'est aussi quelqu'un qui fait d'autres disciples. Très intéressant. Le dernier point de mon message, c'est Jésus a aidé ses disciples à passer de « viens et vois » à « viens et meurs ». Jésus a aidé ses disciples à passer de « viens et vois », comme Philippe qui a dit à Nathaniel « viens et vois » à « viens et meurs ». Au début, les gens ils venaient écouter Jésus par curiosité. À la limite, c'était pour les divertir, entendre ce parolier qui arrivait dans le village. Puis, les disciples, il y a comme eu 12 disciples, puis il y avait 70, puis il y avait des milliers de disciples aussi. Bon, Jésus prêche un message un petit peu plus rough dans Jean 6. Là. Il y a des milliers de personnes qui arrêtent de le suivre à partir de ce moment-là. Là, il y a un petit groupe. Il y a les 70 qui ont été envoyés deux par deux, puis il y a les 12 qui étaient peut-être plus proches, puis Pierre-Jean-Jacques qui était peut-être le noyau le plus intime avec notre Seigneur Jésus. Là, on est dans le jardin de Gethsémané, puis les soldats arrivent, puis tous les disciples se poussent. Pourquoi? Parce que ça coûte quelque chose. Pierre, il est sur le bord du feu, il chauffe les mains, mais il dit qu'il ne connaît pas. Pourquoi? Parce que choisir Jésus, dans ce contexte-là, c'est d'aller avec lui à la croix, fait qu'il ne veut pas ça, tu sais, fait qu'il se réchauffe. Il veut être proche du feu, mais il ne veut pas être dans le feu. Mais c'est intéressant parce que après que Jésus-Christ soit ressuscité, ils sont tous morts pour leur foi. Ou en tout cas, ils ont été martyrisés. Jean a réussi à survivre son martyr. Il a été envoyé sur l'île de Patmos. Jésus avait dit à Pierre, « en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, ta ceinture, et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, un autre te saignera et te mènera où tu ne voudras pas. » De quoi est-ce qu'il parle? Le texte dit, il parlait de la manière dont il allait mourir pour glorifier Dieu. Pierre allait être un martyr, Jésus l'a avisé aussi. Donc, qu'est-ce qu'ils ont appris? Ils ont appris qu'on pouvait s'approcher de Jésus parce qu'il ne nous jugeait pas, mais qu'est-ce qu'ils ont appris aussi? Ils ont appris à prendre leur croix pour l'autre et pour le témoignage. Au début, c'est Dieu m'aime, puis il m'appelle à l'aimer en retour. Plus qu'ils ont avancé, oui, mais il y a le prochain aussi, puis il y a le témoignage à rendre au prochain. Et donc, ils ont appris à prendre leur croix pour leur témoignage et pour les autres. Quand ils sont placés devant le choix entre préférer Dieu ou choisir eux-mêmes, ils ont choisi le martyr au lieu de renier leur foi. Hein? Donc, est-ce que celui que je vais faire un disciple va aller se faire crucifier? Non. Par contre, dès la première semaine qu'elle va entendre parler de l'Évangile, elle va avoir un choix entre elle ou Dieu, entre ses loisirs ou l'Église. Déjà, il va arriver plein de confrontations que c'est « Est-ce que je choisis moi ou je choisis Dieu? » Et donc, la formation de disciples, c'est d'aider les gens à « viens et vois », à « viens et meurs ». Jésus dit « Quelqu'un ne peut pas être mon disciple s'il ne prend pas sa croix » pour me suivre. Si tu renonces à rien dans ta vie, tu n'es peut-être pas placé devant le choix de servir Christ. Et donc, ce qui fait que les disciples vont aider, excuse-moi, celui qui fait des disciples, vous allez devoir aider le nouveau croyant à comprendre que le salut, c'est la grâce manifestée pour tous les croyants. Hein? Mais que la maturité vous coûte quelque chose. Dès que la personne va avoir cru, l'alouette va tourner autour comme ça, puis il va y avoir le marchand de verres qui va être là. Des gros verres, des verres reluisants, deux verres pour un aile. Il va venir lui offrir quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on a dit au début de mon message que le chrétien doit discerner que les ténèbres veulent empêcher le témoignage de la lumière? Il faut discerner ça tout de suite. Il faut qu'on discerne ça. Et donc, le marchand de verre va arriver tout de suite. Il va avoir une fille pour ce jeune homme-là, pour l'écarter du droit chemin. Il va avoir toutes sortes de pressions qui vont venir, des soucis de ce siècle qui vont venir aussi. Et donc, le but de l'ennemi, ça va être d'empêcher que ce disciple-là prenne son envol. Satan se dit, « OK, cette personne-là, je ne peux pas y enlever le salut, c'est trop tard, il a placé sa confiance en Jésus, mais comment je peux empêcher que sa sœur, ses frères, ses amis puissent voir sa vie transformée? Je vais échanger des ailes avec lui contre des vers. » Et c'est pour ça qu'on va devoir étudier ensemble et essayer de discerner quels sont les pièges dans notre culture qui viennent empêcher les gens de continuer pour que les oiseaux prennent leur envol. Au début de la création, qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé qu'on nous a offert la possibilité de choisir ce qui nous plaisait, puis qu'on ne réalisait pas qu'en faisant ça, on y perdait au champ. Mais une personne qui vient à Jésus-Christ, elle a la possibilité d'être enseignée que ce n'est pas ce qui lui plaît, mais qu'elle doit choisir Dieu au détriment de ce qui lui plairait. Puis c'est comme ça que, comme Gilles nous disait, elle est dépiégée. Il nous disait ça dans le partage sur l'offrande. Elle est dépiégée. Je suis certain que à chaque fois qu'on s'expose à la parole puis qu'on a un cœur honnête et bon, on réalise qu'il y a des pièges qui nous ont comme poignés comme ça. Et donc, qu'est-ce que le vieux croyant va faire? Le vieux croyant qui en a vu d'autres, qui a tombé souvent dans le panneau, qui a mangé de l'arbre tabarouette parce qu'il pensait que ça y rapportait quelque chose, puis finalement il a perdu, il a tombé dans les pièges du malin. Il a compris qu'est-ce que le malin essaye de faire dans la vie de ce nouveau croyant-là, de ce jeune croyant-là. Puis qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'aider à dire, « Sais-tu quoi? Je ne suis pas sûr que deux verres reluisants pour une aile, ça vaille la peine. Je pense que tu devrais obéir à Dieu dans ce domaine-là. Il va challenger le nouveau croyant, hein, pour l'amener à... C'est correct que tu aies été diverti, puis que tu aies découvert l'amour de Dieu pour toi, que tu sois sauvé, tout ça, mais tu as besoin de mourir à certains comportements, certaines tentations, certaines choses que le monde a à t'offrir. Tu as à les laisser pour aller dans les voies que Dieu a préparées pour toi qui sont vraiment abondantes. Tu vas pouvoir t'envoler, puis tu vas pouvoir sortir des pièges du mal. Donc, j'ai commencé avec cette idée de l'alouette. J'ai pensé finir avec la pensée de l'alouette. Et entre les deux, j'ai pensé qu'on pouvait regarder Jésus-Christ pour voir, si vous lisez régulièrement les évangiles, percevoir ça avec moi, que Jésus-Christ, ce n'était pas quelqu'un qui se séparait des gens de mauvaise vie. Et ici, je fais une petite parenthèse, la Bible a dit de séparer de nous des gens qui commettent des péchés, mais c'est ceux qui, se nommant frères, vivent, par exemple, dans des péchés ouverts. Okay? Donc, il y a des versets qui nous disent de faire une séparation, mais par contre, pour une personne qui ne se dit pas croyant, la Bible ne dit pas de séparer d'eux autres. Okay? Donc, ne séparez pas les gens, à moins que, écoute, si tu as un problème d'alcoolisme, puis que tu bois, tu tombes dans l'alcoolisme à chaque fois, c'est lui qui est en train de faire un disciple avec toi. Donc là, c'est mieux de t'en séparer. Mais ici, ils ne se séparaient pas des gens parce qu'ils ne tombaient pas dans leur mauvaise vie. Hein? Ils ne faisaient pas ce qu'eux autres faisaient, mais ils exerçaient un ministère auprès d'eux. Il y avait plein de ponts qui étaient là, qui n'ont pas coupé. Et parfois, le disciple moderne, c'est quelqu'un qui a trouvé une gang de chrétiens. Il se tient avec les chrétiens, il pense comme un chrétien, il parle juste avec des chrétiens. Si un chrétien est à son travail, il est assis avec un chrétien ou il va s'asseoir dans son char puis il mange dans son char. OK? Pas ça. C'est pas ça être un disciple de Jésus-Christ. Il n'est pas seulement venu enseigner, il est venu pour toucher des vies. Donc, la formation de disciple est beaucoup plus que juste l'enseignement. C'est que les gens vont connaître celui qui peut répondre à leurs prières et faire du miraculeux dans leur vie. Troisièmement, Jésus ne mettait pas le change en premier. Il ne mettait pas l'éthique en premier. Il mettait, qu'est-ce qu'il mettait en premier? Il mettait la grâce de Dieu puis le besoin qu'on avait d'être pardonné. Et ça, si on peut comprendre ça, quand on va approcher les gens dans la formation de disciples, on va leur parler de leur besoin d'être pardonné puis l'offre qui leur est faite. Après, on va parler de changement. Jésus, enfin, on a vu que Jésus a aidé ses disciples à comprendre. Puis après quelques années, de passer beaucoup de temps à essayer de comprendre les Écritures, à un moment donné, il y en a qui ont catché comment naître de nouveau. Bien qu'il l'a dit dans la première discussion avec Nicodème, si tu veux voir le royaume de Dieu, tu dois naître de nouveau. Ça ne veut pas dire que Nicodème est né de nouveau ce jour-là. Il était d'un disciple, puis il est venu écouter, puis à un moment donné, il a compris cette parole qui lui avait été dite la première fois. Donc, l'emphase en Amérique du Nord, c'est vite, il faut qu'il naisse de nouveau, puis après ça, on va les enseigner. L'emphase du Seigneur, faites des disciples. À un moment donné, ils vont naître de nouveau. Jésus a aidé ses disciples à passer de... On a fini mon message avec « Viens et vois ». Donc, toutes les activités, les soirées, quand on va faire des événements d'évangélisation, tout ça, c'est génial. C'est un premier pas. Mais éventuellement, il va y avoir un « Viens et meurs ». C'est « Je vais t'aider à aller plus loin dans ta marche avec Dieu ». Amen. Seigneur Jésus, merci d'être le modèle par excellence, Seigneur Dieu. Aujourd'hui, j'ai prêché sur quelque chose qu'on ne fait pas énormément, Seigneur Dieu. On le fait, mais pas de façon systématique. On le fait, Seigneur Dieu, lorsqu'on parle avec nos enfants, lorsqu'on parle avec des collègues de travail, on amène le point de vue de Dieu. On ne le fait pas de façon nécessairement structurée, Seigneur Dieu. Mais je l'ai dit au début de mon message, Seigneur Dieu, j'ai l'impression que comme beaucoup d'églises en Amérique du Nord, on ne se multiplie pas. Puis ce message n'a pas eu la prétention d'amener une solution à ce problème-là, mais à éveiller mes frères et mes sœurs avec moi, de dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre christianisme. Il me semble qu'on devrait... On ne l'a pas appris de nulle part. On ne l'a pas vu de nulle part. Il n'y a pas une église qui nous a implanté, qui le faisait nécessairement. Fait qu'on est là, Seigneur, puis on a les Écritures. On a peut-être il y a des gens dans le monde qui le font vraiment mieux que nous. De nous ouvrir le cœur, Seigneur Dieu, puis de nous donner des occasions de t'apprendre à mieux être des formateurs de disciples. Dans notre capacité, dans qu'est-ce que tu nous as donné. Je veux te rendre grâce, Seigneur Dieu, que les gens prennent à cœur la formation biblique. Seigneur, je te remercie pour ceux pour les sous, Seigneur, qui sont donnés, Seigneur Dieu, pour qu'on puisse continuer la formation biblique, Seigneur. Gilles y parlait des sous qu'on donnait pour que l'Église continue, mais merci pour les sous que les gens donnent, Seigneur Dieu, pour être formés bibliquement. Parce que tu dis que celui qui est enseigné doit faire participer de ses biens celui qui l'enseigne. Et je continue à bénir Pasteur Patrice, Seigneur Dieu, afin qu'il continue à produire des bons cours pour nous autres. Puis chacun de nous, là, ce matin, qu'on ne voit pas ça comme une fin en soi d'être formé, mais un moyen pour que ma connaissance puisse aussi servir à d'autres. On ne sait pas comment, tout à fait, ça va prendre forme. Mais qu'on puisse juste dire, OK, je ne suis pas juste la fin du processus, mais le moyen par lequel tu veux atteindre d'autres personnes. Je te prie pour cette série, Seigneur, que cette série puisse nous donner des yeux puis un cœur. Pour toi, Seigneur, d'abord, puis aussi pour ce monde qui est perdu. Au nom de Jésus. Amen.
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio, vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.com.